Alors, je vous propose qu'on commence ce soir, ce moment, en ouvrant notre Bible en Juges, dans le livre des Juges, au chapitre 3. Il y a une phrase qui avait attiré notre attention dans notre lecture en famille, et ça nous avait interpellés. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû prévenir de que chacun vienne dans une tenue correcte, parce que nous allons parler de combat. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une tenue qui n'est pas forcément vestimentaire. Alors au chapitre 3, au premier verset. Et ce sont ici les nations que l'Éternel laissa subsister pour éprouver par elles Israël, savoir tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Et cela seulement afin que les générations des fils d'Israël connussent en l'apprenant ce que c'est que la guerre, ceux du moins qui auparavant n'en avaient rien connu. Il y a ceux qui savaient et ceux qui ne connaissent pas. Connaître la guerre, et Dieu laisse là, clairement, des nations, pour que nous apprenions ce que c'est que la guerre. Alors, il y a plusieurs manières de vivre cela. Dans l'histoire de l'Église, on doit bien convenir que ça n'a pas toujours été vécu d'une juste manière. Alors, les juges parle de défaite. Et Josué parle de victoire. Alors, on ne veut pas s'attarder dans ce livre des juges, mais qu'on se rappelle ce verset. Il est nécessaire pour nous d'apprendre ce que c'est que la guerre. Et à quelque part, on peut dire merci pour les difficultés. Alors, je vous propose d'aller dans le livre de Josué. Et parcourir quelques étapes. On ne va pas toutes les prendre, mais quelques étapes. Puis on passe de ce que Israël a vécu et ce qui a marqué aussi mon cœur. Puis après, on prendra quelques versets dans le Nouveau Testament. Alors, dans Josué 5. Au verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. » Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot, etc. C'est l'une des premières étapes. Il y a eu d'abord, effectivement, la manne qui a disparu et le peuple qui a pu jouir du blé du pays. C'est une première étape importante. Il nous faut bien commencer par jouir de ce qu'est le Seigneur Jésus pour nous personnellement. Puis après, il y a cette étape-là. Et je crois qu'il est important qu'on réalise bien ce que c'est. Et si Achan avait réalisé les choses dans son cœur, parce que s'il y a physiquement une opération douloureuse qui se fait, c'est bien une image de ce qu'on devrait vivre dans notre cœur. Donc c'est quelque chose que l'on voit, mais dans toute la Bible, cette circoncision-là. Mais je vous propose alors vite prendre un verset qui en parle pour réaliser ce que c'est cette circoncision-là. Dans Deutéronome 10. Jérémie en parle aussi. Et Jérémie insiste cela, sur cela. Alors, Deutéronome 10, verset 15. « L'Éternel s'est attaché à tes pères pour les aimer. Il vous a choisi, vous, leur semence après eux, d'entre tous les peuples comme ils paraissent aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez pas votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, etc. » Donc, circoncisez votre cœur. Et la petite note, elle dit, littéralement, le prépuce de votre cœur. Ça veut bien, hein, c'est bien l'image de ce qui devrait se passer. Puis on va lire dans Colossiens 2, quand même un verset dans le Nouveau Testament, hein, qui en parle. Au verset 11, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair, hein, littéralement du péché de la chair, par la circoncision du Christ, étant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel vous avez été ressuscités, ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et on voit aussi ce côté-là. Donc c'est aussi bien hier qu'aujourd'hui, c'est cela. Alors Achan n'a pas fait la chose. Et il s'est permis d'aller prendre des objets précieux. Un manteau de Shinar. Et Shinar, c'est Babylone. Hein ? On connaît l'image de Babylone. Hein ? Tout ce qui est opposé à Dieu. Le monde, hein, dans ce qu'il est. Alors, quel que soit notre âge, je crois qu'on doit en faire très attention à cela. Et c'est l'une des étapes les plus importantes du départ. Et le peuple d'Israël va devoir revenir chaque fois là, lorsqu'il y aura des fêtes. Et Samuel, par exemple, a vécu aussi cela. Et il faisait un tour. Et il revenait là. Parce qu'il sentait bien qu'il s'était passé quelque chose à cet endroit-là. Une deuxième étape. C'est plus loin dans le chapitre. À la fin du chapitre. Au verset 13. Et il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Josué est là, devant Jéricho. Il a la responsabilité de conduire ce peuple. C'est lui qui a remplacé Moïse. Et il se trouve devant un dilemme. Comment procéder pour attaquer Jéricho ? Et je pense que ça a dû travailler dans sa tête. Comment ça va se passer? Alors, l'ange de l'Éternel vient. Comme pour lui dire, « Te fais pas de soucis. C'est moi le chef. C'est moi le chef de l'armée. Tu es mon représentant, un serviteur qui sera fidèle. Je t'ai dit, sois fort. Hein, tout au début, au premier chapitre. Et l'Éternel, hein, l'ange de l'Éternel l'assure qu'il sera présent. Pour nous, c'est la même chose. On n'est pas encore au ciel. Comme Israël n'avait pas pris encore possession des choses, nous jouissons pas encore pleinement de ce salut, de ces bénédictions. Mais Dieu, à quelque part, nous les donne. Il y a ces arts de notre héritage. Éphésiens, il en parle. Quand même lire la première phrase. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. C'est pas futur, c'est présent. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais il y a des choses dans lesquelles on doit en prendre possession. Parce que si Dieu nous les offre, il les met sur la table. Maintenant, sers-toi à quelque part. Prends. Et il faut en jouir. Il y a l'affaire de Haï, mais je passerai par-dessus. Et je vous propose alors d'aller plus loin dans Josué 9. Il y a eu avant une victoire à Haï, même s'il y a eu une première défaite. Mais il y avait quelque chose à régler avant. Il y a eu un moment très fort pour le peuple d'Israël de répondre à ce que Moïse avait dit à l'avance. Ces deux montagnes, ces deux collines, c'est un moment fort pour Israël de vivre cela. Et ils doivent redescendre de la montagne. C'est un peu quand on a fini les camps, des moments forts, on redescend de la montagne. Et voilà que ils reçoivent une visite. On va quand même commencer au chapitre 9, verset 1er. Il arriva que lorsque tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans le pays plat et surtout le rivage de la grande mer, jusque vers le Liban, le Héthien et l'Amoréen, le Canadien, le Phérésien, le Hévien et le Jébusien, eurent entendu ces choses, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël d'un commun accord. Et les habitants de Gabaon entendirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï. Et ils usèrent de ruse, eux aussi. Ils se mirent en route, préparés comme pour un voyage, et prirent de vieux sacs sur leurs ânes, et de vieilles outres à vin crevassées et recousues, et de vieilles sandales rapiécées à leurs pieds, et de vieux habits sur eux, et tout le pain de leurs provisions était sec et s'était moisi. Ils allèrent vers Josué au camp de Gilgal et lui dirent, « Et aux hommes d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant traitez alliance avec nous. » Et les hommes d'Israël dirent aux Héviens, « Peut-être que tu habites au milieu de nous, et comment traiterions-nous alliance avec toi ?» Et ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Et ils lui dirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné au nom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon, roi de Hesbon, à Og, roi de Bazan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont parlé, disant, « Prenez avec vous des provisions pour la route. » Et allez au-devant d'eux et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, et maintenant traitez alliance avec nous. C'est ici notre pain, nous le prîmes chaud, de nos maisons pour notre provision, le jour où nous partîmes pour venir vers vous. Et maintenant voici, il est sec et c'est moisi. Et ce sont ici les outres à vin que nous avions remplies neuves, et voici, elles se sont crevassées, et ce sont nos habits et nos sandales qui sont vieillis à cause de la grande longueur de la route. Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et on n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux et traita alliance avec eux pour les laisser vivre. Et les princes de l'assemblée s'obligèrent envers eux par serment. Voilà. On peut dire gonflé à bloc par ces moments de victoire. Ouais. Ils prennent pas attention à ce qui se passe réellement. Ah, ils ont quand même un petit questionnement. Hein. En lisant maintenant, j'ai remarqué un petit mot. Hein. Ils usèrent de ruse, eux aussi. Ils ont menti. Donc les Gabaonites, apparemment, étaient quand même bien au courant de l'espoir qu'ils pouvaient avoir. Parce que Dieu avait dit que tous les habitants de Canaan devaient mourir. C'était un jugement hein, de par leur manière de vivre, hein, les horreurs qu'ils ont vécues, leur Baal et tout cela. Et ils savaient que, manifestement, qu'ils ont compris que s'ils avouaient qu'ils venaient de très loin, hein, il y a plein de choses qui se savent. Hein. Et il y en a autour de nous qui en savent un bout sur la parole de Dieu, qui savent très bien nous dire les choses. Et ils savent où est le bas qui blesse, hein, comme on dit. Toucher là où ils peuvent profiter. Et malgré le fait qu'ils ont été titillés dans leur conscience, il y a une grave chose qu'ils n'ont pas faite. Hein? On l'a tous entendu. On n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Et nous avons besoin de cette constance-là. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Hein? Et il y en a qui sont très malins, hein? Si Josué a usé de ruse pour gagner la bataille à Haï, d'autres savent aussi le faire. Il y a des versets aussi dans le Nouveau Testament où on voit, il est dit que Satan, il sait aussi se transformer hein, en ange de lumière. Et nous devons faire très attention dans nos vies. Il y a ces dangers-là. Et les conséquences sont lourdes quand même. Et ils vont en subir les conséquences. Donc, nous avons besoin d'être très attentifs à ce que Dieu dit. Et combien il y a eu d'histoires où Dieu avait dit les choses. Il y a ce prophète aussi qui vient du temps de Jéroboam et qui vient parler. Il est envoyé par Dieu et Dieu lui avait dit, tu vas, tu dis ton message et tu reviens sans t'arrêter. Et il est arrêté en chemin par un autre prophète. Dieu m'a dit. D'ailleurs, il le dit là aussi. Hein. Nous sommes... où est-ce que c'est ? Au verset 9. Hein, ils lui dirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné au nom de l'Éternel, ton Dieu. Et ce prophète-là dit la même chose. Dieu m'a parlé. je suis un ancien prophète. Hein. Et combien d'autres histoires? Il y a un frère, dans une réunion, j'ai entendu, qui a dit à un autre, « Dieu m'a dit pour toi. » Ah, mais Dieu m'a pas parlé directement. Pourquoi Dieu aurait besoin de mon frère pour me dire quelque chose? Dieu dit les choses. Et je dois m'en tenir à ce que lui a dit. Et on a mis trop d'intermédiaires, trop souvent d'intermédiaires dans ces messages. Le chapitre 10. Alors, les autres pays, donc les autres rois hein, dans le pays de Canaan se liguent pour venir attaquer Gabaon. Gabaon appelle au secours. Et bien sûr, Israël a signé à quelque part hein, un contrat. Et ils viennent. Alors, chapitre 10, verset 7. Et Josué monta de Gilgal, lui et tout le peuple de guerre avec lui. Tous les vaillants hommes. Et l'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je les ai livrés en ta main. Pas un d'entre eux ne tiendra devant toi. Et Josué arriva sur eux tout à coup. Et il monta de Gilgal toute la nuit. Et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, qui leur infligea une grande défaite près de Gabaon. Et les poursuivit par le chemin de la montée de Beth-Horon. Et les battit jusqu'à Azekah et jusqu'à Makeda. Et il arriva que, comme ils fuyaient devant Israël, ils étaient à la descente de Beth-Horon. L'Éternel jeta des cieux de grosses pierres sur eux jusqu'à Azekah, et ils moururent. Ceux qui moururent de pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Mais je ne m'arrêterai pas là. Et Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des fils d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, en la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta. Et la lune demeura où elle était jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Jachar? Et le soleil demeura au milieu des cieux et ne se hâta point de se coucher, environ un jour entier. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel écouta la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Il est intéressant qu'il ait parlé, mentionné trois fois de Gilgal. J'aime à voir que la leçon a été apprise. Qu'il fallait partir de là. Parce que c'est un travail à faire et à refaire que de réaliser. Hein? On connaît bien les combats qu'il y a. Et on a besoin de revenir là. Mais je trouve cette histoire tellement géniale. Il ne va pas très loin, Josué, pour que l'Éternel lui dise déjà quelque chose. Ne crains pas. Et Dieu est là d'une manière tellement forte que sa main se fait sentir, hein, qu'il y a eu plus de tués par l'Éternel directement que par la main de l'homme. Mais ce qui me touche, et c'est donc, on peut être encouragé, nous, c'est l'action de Josué. Josué parle à l'Éternel en la présence d'Israël, hein, devant tous. Ce n'est pas une prière en cachette, mais il le dit ouvertement. Au soleil et à la lune de s'arrêter dans leur course. Physiquement, c'est impossible. Si la terre arrête de son mouvement, on est scotché contre le mur. Mais les choses se passent ainsi. Et Josué a ce discernement pour oser dire une prière par elle, pareil. Et l'Éternel l'entend et agit. Comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas des combats où on sent tellement la chose, hein? Comme si ma main et la deuxième me viennent, hein, épouser, en fait. Hein, on n'en voit plus qu'une. Les pensées de Josué sont tellement prises par le projet, par cette action où il va falloir lutter et combattre contre des ennemis, et il sent que c'est la pensée de Dieu et qu'il faut plus que 24 heures. Il y a des combats pour lesquels on doit travailler plus. Et je trouve des fois que dans nos prières, elles sont rudement courtes et on se fatigue. Et il est dit plus loin, au verset 19, « Ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et frappez-les, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés en votre main. » Est-ce qu'on n'oublie pas, des fois, de poursuivre nos actions? Et Josué le sent. Il faut du temps. Et il demande à Dieu cela. Et d'ailleurs, on voit Dieu aussi fortifier le peuple. Et ils ont l'énergie pour combattre pendant 48 heures. C'est encourageant pour nous, pour dire, mais nous dire qu'il y a des combats, on sent que c'est des combats. Il y a aussi cette expression des combats de l'Éternel, je ne sais plus comment c'est exactement. Mais il y a cette expression, ou une expression semblable dans la parole, où on peut, nous, à quelque part, épouser ce projet. Il est aussi le nôtre. Et on doit travailler. On doit se battre pour cela. Et alors là, il est dit, j'ai noté, il est dit deux fois, l'Éternel, le Dieu d'Israël, ou l'Éternel combattait pour Israël, ou bien le Dieu d'Israël combattait pour Israël. Et puis cette fois, il est dit, l'Éternel livra. Il est présent activement là, mais on voit Josué présent activement et le peuple avec. Et c'est important que cette action de poursuivre et de ne pas s'arrêter, parce qu'on voit dans la suite du chapitre que même si ils ont battu, où est-ce que c'est ça? Donc la ville d'Hébron, le roi d'Hébron, il était aussi dans l'équipe des cinq rois là. Hein? Alors ils ont gagné la bataille contre Hébron, mais on voit que certains, c'est au verset 20, il arriva que les fuyards d'entre eux échappèrent et entrèrent dans les villes fortifiées. Hein? L'ennemi revient et reprend possession des ruines. Et Israël doit revenir, refaire la guerre. Il est important pour nous, lorsque on a gagné une bataille, c'est qu'on la sécure, ou sécurise. Hein? Quand le Seigneur Jésus le mentionne aussi, hein, c'est de l'histoire quand il libère d'un démon quelqu'un, hein, et puis s'il revient, puis il trouve la maison vide, il en appelle sept autres pour revenir. Faisons attention, nous aussi, quand nous avons gagné des batailles, nous devons être là pour prendre possession du lieu, pas lui laisser vide, parce qu'il revient. « Je vous propose maintenant, après ces leçons de Josué, où on commence par nous nourrir du Seigneur, de vivre cette circoncision de notre cœur, hein, ne pas laisser la chair vivre, et c'est des fois douloureux, de ne pas nous laisser avoir par la ruse de l'ennemi, de gagner des batailles avec le Seigneur et ne pas nous relâcher. Moi, je vous propose de lire quelques versets dans le Nouveau Testament. Parce que cette bataille, il faut voir vraiment où elle se trouve. Parce qu'il y a trop souvent de disputes entre frères. Alors, on ne va pas lire tout Éphésiens 6, 10 à 20. Hein. Mais quand même, on va lire les premiers versets. Au verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Nourrissons-nous de lui. Dans la puissance de sa force, il ne faut pas l'oublier. Cette force que le Seigneur a manifestée lorsqu'il a libéré tant d'âmes de démons. Et ces démons qui n'ont pas pu résister. Ils connaissaient d'où était la source. Revêtez-vous de l'armure complète. Revêtez, on s'habille. Il y a une action personnelle de le faire. Et puis on doit la garder. On ne doit pas s'en séparer. Et en plus, elle doit être complète. Parce qu'elle est nécessaire pour que nous puissions tenir ferme contre les artifices du diable. Et rappelons-nous les artifices, il y a entre autres la ruse. Les choses auxquelles on ne s'y attend pas. Parce que ça vient d'office, cela. Et puis, il faut être conscient que cette lutte, elle n'est pas à notre niveau. Il y a une lutte au-dessus. Daniel a dû attendre 3 semaines pour avoir des réponses à ses prières. Et pourtant, il ne s'est pas ménagé dans un jeûne, en prière. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un combat. Un combat à haut niveau. L'ange Gabriel est venu lui en parler. Et il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas nous qui allons pouvoir agir contre ces démons, ces puissances de méchanceté. Et on peut se rappeler que, donc il y a ces expressions, on le voit, hein, et dans Jude par exemple, ou dans Zacharie, même l'ange Gabriel ne s'est pas permis d'attaquer directement le diable ou ses démons. Où est notre victoire à ce niveau-là? J'ai noté ça. 1 Jean 5, verset 4. « Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Celui qui croit. C'est notre foi. Je ne dois pas douter de Dieu, ni de son amour, ni de sa puissance. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin, parce que je ne souhaitais pas parler de l'armure complète. Hein, bien des fois, on la lit, mais il me semble qu'il y a d'autres choses à lire. Dans 2 Corinthiens 6. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus confrontés à cela. Il y a une expression qui a attiré mon attention là, dans 2 Corinthiens 6, au verset 7. Par les armes de justice de la main droite et de la main gauche. Alors pourquoi en parler ? Fin du chapitre 5. Dieu est à l'œuvre. Il y a un grand travail. Au verset 17, hein, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Il y a une nouvelle œuvre faite dans les cœurs, un changement profond. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous soupillons pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous afin que nous devassions justice de Dieu en lui. Dieu agit. Et il y a un grand travail. Et l'on sait que le moindre petite chose entre deux personnes vient perturber la relation. Et nous avons besoin d'un travail de réconciliation tant de fois. Mais là, il y a une réconciliation grande parce qu'il y en a, il y a le péché. Hein? Et Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés. Et il travaille à ce niveau-là. Et il nous utilise. Et l'apôtre Paul continue. Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi, nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. Le travail, Dieu le fait, mais nous sommes collaborateurs dans son œuvre. Et nous avons ce travail aussi, parler de réconciliation. Et chaque fois qu'il y a quelque chose ou quelque chose qui n'est pas en ordre, on doit travailler à cette réconciliation. Combien il y a de drames dans les familles, dans les couples. Et nous sommes appelés à cela. Et il faut continuer. En verset 3, « Ne donnant aucun scandale en rien, afin que le service ne soit pas blâmé, mais en toute chose nous recommandant, etc., comme serviteurs de Dieu, par, dans, il y a ces expressions-là. » Et il cite plusieurs choses. Dans ce travail de collaboration avec Dieu, hein, au niveau de cette réconciliation, il y a une chose qui est très importante. C'est que le service ne soit pas blâmé. Et comment peut-il être ? Et je reviens à ce verset-là. Hein, par les armes de justice de la main droite et de la main gauche, aujourd'hui, de tant de manières, on est observé. Et combien de fois on entend dire « vous les chrétiens » et même « vous, vous vous permettez ». Ceci et cela. Parce qu'autour de nous, ils savent bien. Ils savent bien, finalement, ils ne la veulent pas, cette parole de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. mais ils en connaissent des choses. Et ils savent très bien nous dire où ça ne va pas chez nous. Ils savent quand on part au culte, quand on revient, hein, quand on va à la réunion comme ce soir. Ils nous observent, ils en savent des choses sur nous. Et nous avons une responsabilité quand nous avons mis un petit poisson sur la voiture. Parce que si on roule à 140, nous n'utilisons pas ces armes de la main gauche et de la main droite. Parce que ceci ne fait pas référence à l'épée et au bouclier, comme dans Éphésiens 6. Mais les armes de justice. Et la justice, hein, c'est nos axes justes. Hein. La cuirasse de la justice, elle entoure tout. Hein. Et le monde peut nous regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Et ils savent où regarder. Et c'est ceci, cette armure-là. Notre manière de vivre. Et Joël Prouin, l'autre dimanche, nous a lu dans Tite. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Parce que donc, dans le chapitre 2, au verset 11, il est dit « La grâce de Dieu, puis plus loin, nous enseigne que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » La grâce de Dieu nous enseigne. Et il y a trois axes. Le troisième, c'est pieusement avec Dieu. Le deuxième, c'est justement avec les autres. Hein, ma manière de vivre avec vous, avec ceux qui nous entourent dans mon village, et sobrement, personnellement. Et cela a un grand impact sur les gens qui nous entourent. Est-ce qu'ils ne voient pas mes excès ? Et je ne sais plus, on en parlait une fois cette année, les excès de table. Par exemple, les excès dans nos occupations, etc. Hein ? Et le monde le voit. Justement, notre manière les uns avec les autres. Est-ce qu'on nous nous comportons en tant que chrétiens ? Nous ne devrions pas être les premiers, comme il est dit plus loin, au chapitre 3. Chapitre 3, verset 8. « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes sur ces choses. » C'est de nouveau les conséquences, hein, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu dans ma vie. Et des changements profonds que Dieu a fait, ou que je devrais laisser Dieu faire. Il y a forcément des conséquences. Elle est certaine, et je veux que tu insistes sur ces choses. Afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes, les premiers dans les bonnes œuvres. Et si vous lisez l'histoire de la chrétienté, il y a des choses qui sont très intéressantes. Lorsque les chrétiens étaient, troisième siècle ou quelque chose comme ça, il y a eu des terribles circonstances à Carthage où avec des pestes et tout cela. Et qui était actif ? Et c'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup qui fuyaient et laissaient mourir ceux qui avaient cette peste. Et on voyait les chrétiens venir et faire le nécessaire. C'est un exemple, mais nous devrions être les premiers pour les bonnes œuvres. Pas forcément ceux qui se voient, hein. Mais il y a plein de petites choses auxquelles Dieu nous dit Voilà, fais les choses. Puis, dans le chapitre, donc 2 Corinthiens 10, au verset 1er. Or moi-même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la débonnaireté du Christ. Moi qui présent, quant à l'apparence, suis chétif au milieu de vous, mais qui absent, use de hardiesse envers vous. Puis plus loin, verset 3. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ, etc. Il y a une manière de marcher. Marcher dans la chair. Je suis humain, d'accord, dans la chair. Mais j'utilise pas, tout étant homme, je n'utilise pas des manières charnelles. Et l'apôtre Paul doit combattre certains frères parce que il le critique lui. Alors que si on voit le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens, premier chapitre, il est dit, mais je ne sais plus où est-ce que c'est dit, mais il est mentionné qu'il n'a rien voulu savoir, rien d'autre que la croix de Christ. C'est dans ce chapitre, mais je ne sais plus où. Et puis, il n'a pas parlé de sagesse humaine. Hein, donc ça, c'est au deuxième chapitre. Ma parole, au verset 4. Ah oui, ouais, d'accord. Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, comme les Corinthiens aiment. Hein, ce développement de rhétorique et de... D'accord ? Mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, l'apôtre Paul n'utilisait pas cette manière-là. Oh, il était reconnaissant qu'il y ait un Apollos avec qui il a collaboré. Mais ce n'est pas cela. Parce qu'Apollos avait ces qualités-là, mais l'Esprit de Dieu l'utilisait aussi, avec ses compétences. Mais ce que l'apôtre Paul utilisait, c'est la parole de Dieu. Il la présentait, pas d'une manière éloquente, mais il disait ce qu'elle était. Et combien de fois, et j'ai été marqué par le fait que quand Catherine accueille ses enfants, là, du culte de l'enfance, et qu'elle leur présente ces histoires de la Bible, ils en comprennent des choses. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Dieu leur ouvre l'intelligence pour comprendre. Et c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à comprendre. Laissons la parole de Dieu. Mais donc, il ne faut pas qu'on utilise des armes charnelles, mais on utilise la parole de Dieu, ce qu'elle est. Elle est puissante et elle détruit des forteresses. L'homme se construit certaines forteresses, cette manière de penser. Des murs pour protéger des idées, des conceptions. Mais la vérité de Dieu telle qu'elle est, elle touche. L'épée, la parole de Dieu, plus tranchante, d'accord, qui va jusqu'au fond, jusque dans les moelles. Alors, cette parole détruit les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. «
connaître Dieu, n'est-ce pas quelque chose de grand? Et plus on connaît Dieu, plus on admire ce qu'il a fait pour nous, cette nouvelle création. Hein? Ces bénédictions, comme donc les premiers chapitres d'Éphésiens en parlent. Et le diable ne veut pas qu'on jouisse de cela. Et il ne veut pas que dans notre vie pratique, on réalise les choses. Alors, voilà des combats. Hein? Que le Seigneur nous encourage vraiment à vivre ces choses-là et à être conscient qu'il y a un ennemi. À être conscient que le Seigneur a vaincu, il a vaincu. Hein, il le dit dans les évangiles, hein, dans chapitre 16, je crois, de Jean. Hein, j'ai vaincu le monde. C'est pas nous. Hein. Notre foi a vaincu. Parce qu'on croit. Et notre foi a besoin d'être solide. Et on peut... Il n'y a pas beaucoup de jeunes ce soir, mais vous avez des petits-enfants. Vous avez des enfants. Et il nous faut communiquer ces choses-là. Nous fortifier dans notre foi. Nous encourager à tenir ferme. Ceci est important. Nous devons faire attention aussi à ce qui peut se passer, ces ruses. Et il y a tant de faux enseignements aujourd'hui. Et on doit être attentif et être béréen pour dire vraiment, c'est pas regarder ce que disent les Écritures, mais c'est vraiment étudier à fond. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont tellement utilisées finement qu'elles viennent troubler la foi. Et nous avons besoin de vivre les choses. Et vivre les choses en pratique pour que ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas, ne viennent pas dire « Ah, les chrétiens !» Et combien dans le monde musulman, quand ils regardent la télévision ou entendent les émissions, ont été déçus. Mais ils sont encouragés par ce qui est dit là, dans la parole de Dieu. Et Dieu fait un travail dans les cœurs qui est extraordinaire. Alors, je laisserai un dernier verset. Je laisserai l'apôtre Paul parler dans 1 Timothée 6, verset 12. Verset 11. Toi, ô homme, donc il y a un mais par rapport à ce qui s'est passé, qui est dit avant, hein, mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, hein, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Montrons ces caractères. Et c'est des fois dur dans notre vie. Hein. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. Et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. C'est un encouragement pour nous aussi. Quel que soit notre âge, parce que nous avons ces combats-là. Nous avons besoin de vivre d'une manière juste, une vie de piété, une vie de foi. Manifester l'amour. Combien sont marqués par l'amour qu'on peut nous pouvons nous manifester l'un l'autre dans les vies de famille, dans les vies de couple. La douceur d'esprit. Et puis ne craignons pas de faire des confessions. Des belles confessions parce que ça marque, ça touche. Mais n'oublions pas que notre manière de vivre parle des fois plus que nos paroles.